Bienvenue à tous sur France Culture. On est lundi et il est midi et demi. L'heure pour vous de retrouver Thomas Cluzel et Le Journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Alberto Fernandez a remporté hier dès le premier tour l'élection présidentielle en Argentine, de centre-gauche, connu pour sa discrétion, sa modération. Il est en somme tout le contraire de sa vice-présidente, la volcanique Cristina Kirchner.
Dans votre journal également, l'extrême droite allemande a réalisé une nouvelle percée hier lors d'une élection régionale en Thuringe,
absolument. Voilà. En revanche, c'est bien la gauche radicale qui, elle, est arrivée en tête avec un score supérieur à celui qu'elle avait enregistré 5 ans plus tôt.
Si l'élimination du chef du groupe d'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi constitue autant un succès militaire qu'une victoire politique pour Donald Trump, rien ne dit que sa mort permette aujourd'hui de sonner le glas de l'organisation djihadiste.
Et invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Claude Moniquet, ancien journaliste et ex-agent de la DGSE. Emmanuel Macron reçoit depuis ce matin les membres du Conseil français du culte musulman avec qui il doit évoquer les questions de laïcité et de communautarisme. Enfin, seulement 30% des TGV circuleront aujourd'hui sur l'axe atlantique à cause de la poursuite d'une grève d'agents de maintenance en banlieue parisienne dans un climat social toujours tendu. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec le philosophe belge Laurent de Sutter à l'occasion de la parution de Indignation Totale, son nouvel essai aux éditions de l'Observatoire, où il s'interroge sur ce réflexe d'indignation que nous avons et qui va de pair avec notre addiction, selon lui, au scandale. Est-ce que tout cela n'entraîne pas une inaction au quotidien et n'est-ce pas inefficace politiquement? Nous en parlerons avec lui dans la deuxième partie de l'émission.
Merci et à tout à l'heure. Dans une région, l'Amérique latine, secouée depuis plusieurs semaines par de très nombreuses crises, à la fois politiques et sociales, comment faut-il comprendre la victoire hier d'Alberto Fernandez dès le premier tour de la présidentielle en Argentine? Tout d'abord comme un retour de l'idéologie péroniste, mouvement ouvrier populaire, ou dit autrement un retour de la gauche au pouvoir, mais sans doute davantage encore, les résultats d'hier témoignent-ils d'un rejet de la politique d'austérité du gouvernement libéral sortant, incarné par le président Macri, et dont le bilan s'avère pour le moins catastrophique, minée par l'inflation autant que la récession. L'Argentine est aujourd'hui un pays en état d'urgence alimentaire où la moitié de la population mineure vit dans la pauvreté. Autant dire que le défi pour Alberto Fernandez s'annonce vertigineux, et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle certains investisseurs s'inquiètent dès à présent du rôle que pourrait désormais jouer la colistière d'Alberto Fernandez, la très clivante et ancienne présidente Cristina Kirchner, dont les deux mandats précédents avaient été marqués par des politiques interventionnistes. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Alors rappelons que l'ancienne chef d'État, visée par plusieurs enquêtes pour corruption, mais aussi consciente des passions qu'elle provoque, avait préféré laisser donc le premier rôle à Alberto Fernandez pour se garantir une victoire. Problème, Nadine, les péronistes de centre-gauche sont pour une bonne partie d'entre eux hostiles au kirchnerisme.
Oui, et la population a donc choisi Alberto Fernandez, que le journal La Nation désigne comme l'interprète de Kirchner. Bien que ce soit lui qui ait mené avec succès la campagne présidentielle, une autre Fernandez, Cristina Fernandez de Kirchner, sa colistière et ancienne chef de l'État veille. Au point que plusieurs éditorialistes se demandent qui gouvernera réellement. Alberto Fernandez, ancien chef de cabinet de Cristina Kirchner, président de 2007 à 2015, et de son mari, Néstor Kirchner, président de 2003 à 2007, ou bien la colistière Cristina Kirchner, elle-même aujourd'hui âgée de 66 ans. Quelle place occupera-t-elle dans le futur gouvernement? Pour certains investisseurs, la période du kirchnerisme 2003-2015 a été marquée par des politiques interventionnistes. Celle-ci fera-t-elle son retour? Le pays a bénéficié d'un crédit de 57 milliards de dollars du FMI, les caisses de l'État sont vides et le pesos a perdu 20% de sa valeur. La monnaie ajustée de 65 pesos pour un dollar, la monnaie américaine étant historiquement le refuge des Argentins en cas de crise. Et vous l'avez dit, l'inflation dépasse les 53% et la pauvreté touche un tiers des Argentins. Face à cette catastrophe économique, un troisième candidat, Roberto Lavagna, ancien ministre de l'économie, plaide pour un gouvernement d'unité nationale avec toutes les forces politiques du pays au chevet du malade. Il ne sera probablement pas entendu. Dans son discours de victoire, Alberto Fernandez a prévenu « Les temps qui viennent ne seront pas faciles », a-t-il déclaré. « La seule chose qui nous préoccupe, c'est que les Argentins Argentins arrêtent de souffrir. Les attentes des Argentins sont donc très grandes. Ils ne savent pas encore comment le nouveau pouvoir va pouvoir y répondre.
Merci Nadine Epstein. Alors j'évoquais tout à l'heure la crise de confiance qui traverse actuellement l'Amérique latine. On citera tout d'abord la Bolivie où un collectif de l'opposition regroupant des partis politiques de droite et du centre mais aussi une partie de la société civile a réclamé hier l'annulation de l'élection présidentielle remportée, je vous le rappelle, une semaine plus tôt et dès le premier tour par Evo Morales. Au Chili, cette fois-ci, pour répondre à une fronde sociale inédite depuis des décennies, là-bas, le chef de l'État, conservateur et milliardaire, Sébastien Piñera, a annoncé ce week-end non seulement un vaste remaniement de gouvernement, mais aussi la levée de l'état d'urgence. Il faut dire que ces derniers jours, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont fait état de très nombreux abus perpétrés par les forces de sécurité à l'occasion justement de cette mesure exceptionnelle. Des enquêteurs de l'ONU sont d'ailleurs attendus dans la journée. S'agissant à présent de l'Uruguay, le premier tour de la présidentielle organisé hier s'apparentait à une épreuve du feu pour la coalition de gauche au pouvoir depuis 2005 dans un contexte économique compliqué mais plus encore avec des indicateurs de sécurité en berne et en particulier une hausse record du nombre d'homicides l'an dernier. C'est finalement le candidat de centre-gauche, Daniel Martinez, qui est arrivé en tête. Il sera opposé le 24 novembre prochain au candidat de centre-droit. Enfin, ultime élection dans la région hier en Colombie. Claudia Lopez, une femme ouvertement lesbienne, symbole de la lutte anti-corruption, a été élue pour la première fois à la mairie de Bogota lors d'un scrutin local qui se sera déroulé dans le calme, en dépit d'une campagne émaillée de violences. Faut-il encore parler de séisme électoral en Allemagne hier et comme attendu l'extrême droite emmenée par sa figure la plus radicale a enregistré une nouvelle forte progression lors d'un scrutin régional avec près de 24% des voix. L'AfD arrivée en deuxième position fait plus que doubler son score du précédent scrutin, confirmant ainsi le repli des partis traditionnels de gouvernement. Quoi qu'il en soit, et avec cette élection en Thuringe, l'Est de l'Allemagne vient donc confirmer un peu plus encore son statut de bastion du parti anti-migrant et eurosceptique. En septembre dernier, déjà, l'AfD y avait dépassé la barre des 20% dans deux scrutins en Saxe et dans le Brandebourg. Pour autant, et sans minimiser, bien entendu, la poussée de l'extrême droite, le scrutin d'hier a bien été remporté par la gauche radicale. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Hier, c'est bien l'actuel chef du gouvernement régional qui est arrivé en tête, donc avec un peu moins de 30% des suffrages, soit un score, Ludovic, en progression par rapport à 2014.
Oui, d'autant que cette élection a connu un autre record, Thomas, 65% de participation, plus 12 points, 250 000 abstentionnistes ont trouvé cette fois un parti qui les a convaincus de se rendre aux urnes. On avait déjà vu pareil phénomène le 1er septembre lors des élections dans les régions voisines de Saxe et du Brandebourg, toujours dans cette ex-RDA. On sait que ça profite davantage à l'AfD, ça s'est confirmé hier, 81 000 abstentionnistes ont été séduits par le discours populiste de Björn Höcke, le candidat de l'AfD. Et un peu moins, mais 60 000 électeurs quand même ont choisi Bodo Ramelow, 60 000 abstentionnistes ont choisi ce sortant, Die Linke, à ne surtout pas mettre dans le même sac que Björn Höcke. Sa politique est populaire, mais son discours n'est pas populiste. On pourrait dire qu'il est un radical socialiste considéré comme un bon ministre président sortant, y compris par les conservateurs de la CDU. 27 000 anciens électeurs centristes ont voté cette fois à gauche, 37 000 sont partis à l'extrême droite. Le parti d'Angela Merkel chute de près de 12 points en 5 ans. C'est un désaveu quand on sait qu'il tenait cette région de Thuringe depuis la chute du mur jusqu'aux élections de 2014. En 2014, pour rappel, la CDU avait terminé en tête juste devant Die Linke, mais n'avait pas pu former une coalition et gouverner. C'est donc cette gauche Die Linke qui est reconduite. Elle a profité d'un effet, on va dire, vote utile face à la menace de l'extrême droite que les sondages annonçaient, des reports de voix importants venant des sociodémocrates qui perdent plus de 4 points en 5 ans, des Verts qui chutent d'un demi-point. C'est la première fois, Thomas, que Die Linke, cette gauche radicale, termine en tête d'une élection, sans pour autant, du fait de cet important score de l'AfD, pouvoir reconduire en l'état la coalition rouge-rouge-verte avec les sociodémocrates et les Verts. Donc, il va lui falloir trouver un allié de plus, peut-être mettre les libéraux du FDP dans une coalition que vous imaginez acrobatique à 4. C'est aussi ça, une conséquence directe du séisme d'hier soir et de ce score de l'extrême droite. Ou bien il faudra une coalition, et là elle sera inédite, à 2 avec la CDU, Die Linke-CDU. Le candidat conservateur en Thuringe a changé d'avis ce matin contre la volonté de Berlin et des caciques du parti. La CDU, localement en Thuringe, se dit prêt à discuter avec la gauche radicale. Pour tous ces partis, on sent bien l'urgence et même la difficulté qu'il y a là à maintenir une digue face à l'extrême droite.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. En Italie, une alliance de droite menée par Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur, connu pour ses diatribes anti-migrants, a remporté haut la main hier les élections régionales organisées en Ombrie. Avec une majorité écrasante de plus de 57% des voix, le patron de la Ligue a donc gagné son pari, non seulement déloger la gauche qui gouvernait depuis 70 ans cette région agricole, mais aussi infliger un grave revers à la coalition au pouvoir à laquelle gouverne le pays depuis moins de 2 mois. Pas plus que les démocraties européennes, la Suisse n'échappe à la crise qui touche les grands partis traditionnels. Une vague verte historique s'est abattue hier lors des élections législatives, à l'issue desquelles la droite populiste de l'UDC, qui a fait campagne contre l'immigration, reste toujours la première force politique du pays. À 3 jours de la date prévue du 31 octobre, les 27 pays de l'Union européenne se sont accordés ce matin pour reporter la date butoir du Brexit au 31 janvier. L'UE attend toutefois désormais que Londres approuve sa proposition. Le cas échéant, il s'agirait donc du 3e report depuis que les Britanniques, consultés par référendum, ont choisi de quitter l'UE. Par ailleurs, la Chambre des communes doit se prononcer, elle, cet après-midi, sur la tenue d'élections législatives anticipées qui pourraient se tenir le 12 décembre. Pour cela, Boris Johnson aura besoin des 2/3 des voix, étant entendu que le Premier ministre conservateur n'a plus désormais de majorité. Les précisions à Londres de Marina Daras.
Boris Johnson présentera aujourd'hui une motion en vue d'obtenir des élections générales anticipées, très certainement prévues pour le 12 décembre prochain. Cette mesure aura besoin de l'appui des 2/3 des députés et ce sera sans compter sur les libéraux démocrates et le SNP, le parti indépendantiste écossais, qui veulent eux aussi présenter un projet de loi pour des élections anticipées. Les deux chefs des partis, l'écossais Ian Blackford et la libérale démocrate Jo Swinson, déposeront également un projet de loi pour que le vote visant à organiser des élections anticipées ne nécessite qu'une majorité simple de députés plutôt que les 2/3 actuellement requis. Mais avec 35 députés SNP et 19 Lib Dem aux communes, il leur faudra l'appui des partis d'opposition. Si cette initiative échoue, le SNP demandera dans la foulée qu'un vote de défiance à l'égard de Boris Johnson soit organisé.
Pas plus que la mort d'Oussama Ben Laden n'aura signé celle d'Al-Qaïda, sans doute celle d'Abou Bakr al-Baghdadi ne permettra pas davantage de décapiter l'organisation État islamique, mais parce qu'elle constitue une victoire importante dans la bataille contre l'hydre islamiste, Donald Trump n'aura pas boudé son plaisir hier en brandissant ce trophée, celui d'avoir réussi donc à éliminer l'ennemi public numéro 1. Dans une allocution télévisée, le président américain a confirmé qu'à la suite d'une opération au sol dans le nord-ouest de la Syrie, le terroriste le plus recherché au monde, acculé dans un tunnel, avait fini par activer sa veste explosive avant d'ajouter « justice a été faite ». Alors avant d'analyser les conséquences possibles de cette opération, je vous propose d'en écouter l'incroyable récit rempli tout à la fois de détails et de commentaires que Donald Trump en a fait hier. Les soldats Omar Waman seraient arrivés par hélicoptère avant de mener une opération au sol qui aura duré 2 heures au total.
L'opération a duré près de 3 heures et a été planifiée de longue date suite à des renseignements obtenus par les services secrets irakiens qui ne laissaient aucun doute sur la présence du chef de Daesh dans la région d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. Les États-Unis ont commencé à recevoir des informations fiables sur les allées et venues de Baghdadi il y a un mois environ. Les hommes de la Force Delta, une unité d'élite, n'attendaient plus que le feu vert de Donald Trump. Le raid est lancé samedi en fin d'après-midi. 8 hélicoptères escortés par un avion de chasse de la coalition internationale décollent du nord de l'Irak. Leur destination, le village de Bashira, à 5 km de la frontière turque, un territoire contrôlé par plusieurs factions djihadistes. Arrivés sur zone, ils sont accueillis par un feu nourri à l'arme lourde. Plusieurs combattants de Daesh gardent les entrées d'une maison où se trouve Abou Bakr al-Baghdadi. Certains sont tués, d'autres arrêtés. Les soldats américains pénètrent dans les lieux. Les combats sont acharnés, mais pas de traces de celui qu'ils recherchent. Baghdadi se terre dans l'un des tunnels creusés sous la maison. Celui qu'il a choisi est sans issue. Il lui est proposé de se rendre. Il refuse et actionne sa ceinture d'explosifs, se suicide et tue 3 enfants qui se trouvaient avec lui.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer cette opération, invité de la rédaction aujourd'hui, Claude Moniquet, ancien journaliste belge, spécialiste des conflits géopolitiques, de la sécurité, mais aussi ex-agent clandestin pour la DGSE, le service de renseignement extérieur de la France. Bonjour monsieur.
Bonjour, petite correction, ex-journaliste français.
Ex-journaliste français, très bien. Alors on l'a dit, cette mort d'Aboubakar al-Baghdadi ne signifie pas que l'organisation terroriste, et encore moins d'ailleurs l'idéologie islamiste, est aujourd'hui terrassée. Dans quelle mesure, du coup, la liquidation du chef historique de Daesh peut-elle avoir un quelconque impact décisif ?
Alors, décisif, je vois aucun impact décisif possible, parce qu'effectivement, Baghdadi n'était pas dans le micromanagement, il ne s'occupait pas de la gestion, je dirais, au jour le jour de Daesh, et encore moins de la planification ou de l'organisation d'attentats à l'étranger. C'était l'idéologue, c'était l'homme qui donnait le ton, c'était l'homme qui était responsable de la propagande, enfin, de la pensée politico-religieuse de l'organisation, c'était pas du tout un chef militaire. Donc, je crois que ça n'aura pas d'impact direct. Le seul impact que ça pourrait avoir, qui sera indirect, se révélerait au cas où il y aurait des difficultés à lui trouver un successeur, parce que bien entendu, l'organisation a malgré tout besoin d'un chef religieux, d'une figure de proue, et ça va être un peu compliqué, parce que ça sous-entend que les dirigeants vont devoir se réunir. Or, ils sont quand même tous sur une hit list, sur une liste de personnalités terroristes à éliminer. Et évidemment, pour des gens qui sont sur ce genre de liste, se réunir est particulièrement délicat.
Selon vous, au vu de ce que l'on sait des détails de l'opération, mais aussi de votre expérience au sein de la DGSE, aurait-il été possible de capturer vivant Aboubakar al-Baghdadi ?
Alors, je vais vous faire deux réponses. Premièrement, je pense que non. Je pense qu'effectivement, quand on est en face de quelqu'un du calibre de Baghdadi, ou en tout cas qui a son idéologie, qui a ses convictions, qui a et puis qui est équipé d'une ceinture d'explosifs, l'idée de pouvoir le prendre vivant est quand même assez réduite. La possibilité est assez réduite. Et ma deuxième réponse sera encore plus simple. Ça présente aucun intérêt. Prendre al-Baghdadi vivant, ça veut dire le mettre en prison, ça veut dire le juger, ça veut dire à ce moment-là s'exposer à de possibles représailles, à du chantage, à des attentats, des enlèvements pour le faire libérer. Alors que là, bon, le dossier, enfin, je vais le dire un peu brutalement, mais le dossier al-Baghdadi est fermé, il est classé, il est archivé, point.
Si ce n'est qu'en tuant leur ennemi, les États-Unis ont sans doute pris le risque de le transformer aussi en martyr.
Oui, mais c'est le cas. Vous savez, nous, Français, nous avons quand même éliminé un certain nombre de djihadistes français ou d'ailleurs européens d'autres nationalités en Syrie et en Irak. Ça, on les transforme en martyrs. Hein. Mais en même temps, ça, à nouveau, je vais peut-être sembler un peu brutal et cynique, mais à nouveau, ça règle quand même beaucoup de problèmes.
On a longtemps pensé qu'Aboubakar al-Baghdadi se terrait quelque part près de la frontière irako-syrienne. Il était donc finalement à Idlib, c'est-à-dire à quelques kilomètres seulement de la frontière turque, une zone plutôt historiquement d'ailleurs hostile à Daesh. Pourquoi était-il là-bas ? Est-ce que l'on peut imaginer qu'il était en partance vers la Turquie ?
Alors, c'est une possibilité. On peut penser effectivement qu'il avait des plans d'exfiltration. On sait quand même qu'une partie relativement importante des combattants de Daesh, des terroristes étrangers et même de certains dirigeants se sont exfiltrés depuis maintenant 2 ans. Et on les retrouve en Afghanistan, on les retrouve dans le Sahel, on les retrouve en Afrique de l'Ouest, on les retrouve dans d'autres zones du Moyen-Orient. Donc al-Baghdadi est très, même en Asie, al-Baghdadi a très bien pu penser lui-même repartir et essayer de relancer son mouvement d'ailleurs. Une autre possibilité quand même, c'est que Idlib est une des dernières poches de résistance des gens de Daesh. Donc on est dans une zone dans laquelle effectivement les Kurdes sont puissants et les Kurdes ne sont pas les meilleurs amis de monsieur de Baghdadi et de son organisation, mais ils pouvaient compter sur des réseaux locaux. Donc c'est difficile d'arbitrer entre les deux possibilités.
Une dernière question, monsieur Moniquet, en quelques mots s'il vous plaît. Pourquoi cette mort a-t-elle été mise en doute par la Russie ? Est-ce parce que la mort d'Aboubakar al-Baghdadi avait déjà été annoncée à tort par le passé, ou bien parce que cette région d'Idlib, elle n'est qu'à quelques encablures en réalité des bases russes, et donc en ce sens, le Pentagone a damné le pion aux Russes ?
Alors effectivement, je pense que les Russes ont dû se sentir un peu vexés. Maintenant, effectivement aussi, on avait annoncé déjà 4 fois ou 5 fois la mort d'al-Baghdadi. Cela étant, c'est la première fois qu'un président américain monte au créneau et assume lui-même cette annonce. Et on imagine quand même très difficilement que ce soit une erreur, soit une désinformation, parce que le prix à payer pour Donald Trump serait politiquement énorme.
Merci Claude Moniquet, ancien journaliste, je le rappelle, et ancien agent également pour la DGSE, d'avoir répondu à notre invitation. Pressé de s'exprimer sur la laïcité, Emmanuel Macron rencontre depuis ce matin les représentants du culte musulman, le chef de l'État qui appelle à être intraitable contre le communautarisme responsable, selon lui, d'une forme de séparatisme en France. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, dans un entretien diffusé ce matin chez nos confrères de RTL, le président assure ne pas vouloir céder à la précipitation sur ce sujet inflammable. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a encore du mal, Stéphane, à comprendre à quoi pourrait bien ressembler donc cette fameuse réforme de l'islam menée depuis plusieurs mois.
Ça fait bientôt 10 jours qu'est posée à Emmanuel Macron et à sa majorité la question de la place de l'islam au sein de la République. Question qui n'est pas nouvelle, mais qui a ressurgi avec le débat sur le port du voile pour les accompagnateurs scolaire. On a pu voir que les troupes d'Emmanuel Macron, que ce soit au gouvernement ou à l'Assemblée nationale, sont divisées sur le sujet. Le malaise a conduit le chef de l'État à s'exprimer depuis l'île de la Réunion où il était en déplacement. Il a expliqué que le port du voile dans l'espace public n'était pas son affaire, mais que le port du voile à l'école, ça, c'était son affaire. Ce qui, au bout du compte, n'a rien clarifié du tout et a même ajouté un peu plus à la confusion. Depuis, un sondage a été publié ce week-end dans le journal du dimanche, un sondage IFOP qui indique que 78% des personnes interrogées estiment qu'aujourd'hui, la laïcité est menacée. C'est vraisemblablement ce qui a conduit le président de la République à ajouter à son agenda cette rencontre avec les représentants du Conseil français du culte musulman ce matin. Cette réunion s'est terminée il y a un peu plus d'une demi-heure. Sa volonté à travers cet échange était de rappeler que l'islam est une religion, une culture, mais pas une organisation politique. Il a aussi précisé les choses sur le fait que la République n'est pas en guerre contre l'islam, mais contre la radicalisation. Ce qui fait que selon lui, il y a 2 défis qui sont posés à la société française. 1, comment fait-on pour identifier les personnes radicalisées? Et 2, comment fait-on pour lutter contre le communautarisme qui gangrène certains quartiers? Sur ces questions, il a demandé au CFCM, au Conseil français du culte musulman, de prendre ses responsabilités. Le CFCM indiquait qu'il réunira son conseil religieux demain matin. Le problème avec le CFCM, créé en 2003, hein, il y a 16 ans, par Nicolas Sarkozy, c'est un problème de représentativité. L'espoir à l'époque était qu'il s'impose petit à petit comme une instance de représentation de la communauté musulmane. En réalité, il est miné par des luttes d'influence entre les communautés d'origine algérienne, marocaine et turque, et il ne représente pas grand-chose. On ne voit donc pas bien à ce stade sur quoi pourrait déboucher cet appel à mobilisation du Conseil du culte musulman. Et par ailleurs, on attend toujours une prise de parole globale du chef de l'État. Ça fait maintenant 2 ans que ses conseillers annoncent à intervalles réguliers un discours global du président sur la laïcité. Mais jusqu'ici, il n'a jamais été programmé.
Merci Stéphane Robert. Il faut remettre la filière nucléaire au meilleur niveau d'exigence. Voilà ce que réclame le gouvernement ce matin à EDF, le groupe énergétique, qui est sommé de présenter donc un plan d'action d'ici 1 mois. Anne-Laure Jimet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous revenez justement du ministère de l'économie où Bruno Le Maire a fait ses annonces en présence du président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, mais aussi de la ministre de l'écologie, Elisabeth Borne. En réalité, Anne-Laure, il faut préciser que toutes ces annonces sont directement liées aux conclusions du rapport sur les déboires de l'EPR de Flamanville, un document sans concession.
Oui, un rapport court, 33 pages, mais qui effectivement ne ménage pas EDF. Les estimations initiales étaient au mieux irréalistes. Voilà ce qu'on peut lire dans ce document rédigé à la demande de Bercy par l'ancien patron de PSA, Jean-Martin Foltz. Il y a aussi eu une mauvaise gestion du projet et un manque de compétences à tous les niveaux de la chaîne. Le rapport pointe particulièrement du doigt la pénurie de soudeurs peu qualifiés, la pénurie de soudeurs qualifiés justement. Le dernier gros problème concerne des soudures mal effectuées sur le chantier de Flamanville. Le plan d'action que doit présenter EDF devra donc notamment prendre en compte cette problématique. Comment former les soudeurs dont la filière a besoin? Le groupe public devra aussi améliorer la gouvernance des grands projets et les relations avec l'autorité de sûreté nucléaire pour mieux s'adapter aux exigences de sûreté. Voilà pour les leçons à tirer de Flamanville qui est un échec pour toute la filière, a martelé Bruno Le Maire. Mais cela aura-t-il un impact sur l'avenir de cette technologie de troisième génération? Eh bien, pour l'instant, le gouvernement botte en touche, renvoyant toute décision après la mise en service de Flamanville, désormais prévue fin 2022.
Merci Anne-Laure Jumet. S'agissant à présent de la SNCF, les perturbations se poursuivent à l'occasion des départs et retours des vacances de la Toussaint. Un tiers des TGV circule ce matin sur l'axe atlantique en raison de la grève d'agents de maintenance en banlieue parisienne dans un climat social toujours tendu. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors hier, des perturbations avaient déjà affecté le trafic dans l'ouest et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Toujours la semaine dernière, d'autres régions avaient encore été affectées 3 jours durant à cause d'un conflit entre d'un côté donc la direction qui dénonce finalement une grève sauvage, et puis de l'autre les syndicats qui invoquent l'exercice légitime du droit de retrait. Quelles sont au fond, Catherine, les raisons de cette colère ?
Si elle se manifeste dans différents centres à travers la France et sur des sujets distincts, la protestation a la même toile de fond, l'évolution des conditions de travail. Aujourd'hui, c'est sur l'axe atlantique que le mouvement social est le plus fort, suite à la grève d'agents de maintenance à Châtillon, un centre stratégique dans l'exploitation des TGV, d'où les conséquences importantes sur le trafic. Les agents protestent contre la réorganisation du travail, les suppressions d'emplois et sous-effectifs, ainsi que l'absence de dialogue avec la direction. Ils appellent à manifester demain devant le siège de la SNCF. La direction, elle, parle d'incompréhension face à, je cite, une grève jusqu'au boutiste. Autre sujet de tension, la sécurité et les moyens humains pour l'assurer. Après l'accident d'un TER à un passage à niveau il y a 10 jours, entraînant l'arrêt de travail de dizaines de conducteurs et contrôleurs, les discussions reprennent cet après-midi avec la direction sur le sujet et des mesures comme la formation des conducteurs, la présence d'un contrôleur par train ayant déjà été écartée. À Sudrail, on compare les différents centres SNCF à des cocottes minutes prêtes à exploser, et cela pourrait arriver avec la troisième cause de conflit à venir, la réforme des retraite et le projet de fusion du régime spécial des cheminots dans le système universel voulu par le gouvernement. Les syndicats doivent rencontrer jeudi le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, et le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, pour une première séance de concertation. La CGT cheminots, opposée à la réforme, a annoncé ce matin qu'elle ne se rendrait pas à ce rendez-vous. C'est donc une entreprise où la tension monte de toutes parts que va trouver le nouveau PDG. Guillaume Pépi doit en effet passer la main la semaine prochaine à Jean-Pierre Farandou.
Merci Catherine Petit. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Voilées mais secs sur le tiers nord et le tiers sud du pays, gris et humide partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Anne Fauquemberg pour le prochain journal de la rédaction.